Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Dans la vie, il y a nombre de rendez-vous que nous nous donnons les uns les autres. On le sait, hein, c'est pratiquement au quotidien. Et en principe, à chaque fois qu'il y a rendez-vous d'une personne avec une autre, il y a toujours un échange, il y a toujours un dialogue. Eh bien, cet après-midi, Dieu nous donne rendez-vous et lui va parler et nous, nous allons écouter. Alors, on va ouvrir d'abord un premier passage dans l'épître de Pierre au chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, et simplement une partie d'un verset. Alors, dans ce verset, c'est le verset 9, et nous allons aller à la fin du verset 9. Et il nous est parlé de Dieu qui nous donne rendez-vous pour nous dire une chose certaine et véritable, c'est qu'il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il y a une transition. Il y a un passage d'un état à un autre. Et ça, c'est quelque chose dont nous devons nous souvenir. Je rappelle, celui qui nous a appelés ou qui nous a fait passer, dans d'autres traductions, eh bien, des ténèbres à son admirable lumière. Et pour cela, eh bien, j'aimerais simplement, pour cadrer notre méditation, vous faire part, je vous donne pas la référence, mais vous allez écouter simplement. Dans un psaume, il est dit cette parole qui illustre tout à fait ce que nous avons lu. Il nous est parlé de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de son amour et de sa compassion pour les hommes et les souffrants. Et voilà ce que j'ai devant et je le restitue. Il nous est dit que Dieu fait droit aux opprimés, qu'il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Et dans cette qualification de juste ou de justesse ou de justice plutôt, eh bien, il y a véritablement la notion de la foi. Et la seule chose qui puisse nous rendre agréable, qui puisse permettre à Dieu de nous agréer dans nos détresses, dans nos besoins, dans nos requêtes, eh bien, c'est que véritablement, nous lui fassions confiance. Alors, après nous avoir donné rendez-vous pour nous rappeler que c'est lui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, alors le qualificatif est tout à fait approprié, nous allons le voir d'ici un instant, l'admirable lumière de Dieu. Et puis, on sait que dans ce psaume, qui était le psaume 46, hein, mais il nous est donné finalement, eh bien là, ce programme messianique de l'évangile, de ce Messie qui viendrait, du Messie, et à travers toutes les opérations de délivrance et de secours et de libération qu'il accorderait, on l'a vu, d'abord aux opprimés, aux affamés, ceux qui sont prisonniers, les captifs, et puis d'ouvrir les yeux aux aveugles. Alors il y a un passage où nous allons maintenant, eh bien, faire le commentaire. C'est dans l'évangile de Marc. Et il est question de cet homme. Alors c'est un grand classique. Il s'appelle Bartimée. Et nous allons voir comment peut-on passer des ténèbres à l'admirable lumière. Et pour, je pense que Bartimée, ça devait être quelque chose de considérable. C'est pourquoi le mot admirable, la splendeur de la lumière de Dieu, eh bien, est tout à fait convenable lorsque l'on fait une pareille expérience que là, eh bien, dans le cas physique de cet homme Bartimée, nommé Bartimée, alors on voit que vraiment c'est l'illustration à la fois d'une manière physique et puis d'une manière spirituelle. Et je crois que les deux marchent ensemble. Je pense que Dieu est venu pour guérir les hommes dans toute leur détresse, dans leur corps, dans toute leur infirmité, mais je pense que ça ne s'arrête pas là, c'est que il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin quand il nous ouvre les yeux d'une façon ou d'une autre sur le plan de notre vie d'homme, eh bien c'est qu'il veut nous ouvrir les yeux aussi sur son admirable lumière. Alors nous lisons ça, c'est Marc chapitre 10 verset 46. Si je le répète, c'est quand même un texte qui est le plus connu, des plus connus dans la Bible, mais pourtant quel beau texte. Quelle histoire merveilleuse. Et il faut peut-être avoir connu ce que c'est que la cécité pour pousser des cris de joie et de dire tout simplement « Maintenant je vois, maintenant je sais, maintenant je connais, maintenant je suis sauvé. » Alors on va le lire. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, de Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors il y a des mots dans notre récit, des mots tout simples que nous comprenons naturellement. Et derrière tout cela, il y a une signification qui va au-delà peut-être d'une première compréhension, d'une première lecture. Et c'est important parce que on s'aperçoit que la mission première de celui que Dieu envoie sur la terre, eh bien, c'est de conduire les hommes à la lumière. Et si c'est de les conduire à la lumière, c'est que Dieu sait pertinemment que le monde entier, comme le dira un autre apôtre qui parlera aussi de Bartimée, que le monde entier gît dans le malin, qu'il gît dans les ténèbres. C'est l'apôtre Paul qui va surenchérir lorsqu'il écrira plus tard, beaucoup plus tard, son épître aux Éphésiens. Il dira « Mais moi je prie pour vous, que Dieu illumine les yeux de votre cœur ». Donc nous sommes sur deux plans. Une guérison physique dont nous sommes là avertis à travers la lecture de ce texte. Et puis en parallèle, sur une autre dimension, le salut. Le salut de Dieu, c'est-à-dire les yeux de notre cœur. Pour résumer l'histoire en toute simplicité, pour peut-être ceux qui ne la connaîtraient pas, il nous est dit que Jésus va arriver dans les environs de cette ville importante en Palestine qui s'appelle la ville de Jéricho. Aujourd'hui, la ville de Jéricho est bien là et donc une ville qui est sous le gouvernement de l'autorité palestinienne, mais c'est une des plus anciennes villes de l'humanité. Lorsque les archéologues ont fait des recherches, ils ont découvert dans les strates différentes époques. Et c'est une ville qui a été construite, qui a été détruite, etc., etc. Et il paraît que ce serait une des plus anciennes cités du monde ancien. Alors ils sont arrivés à Jéricho et traversant la ville, Jésus naturellement allait certainement plus loin. Il en sortit et puis il y avait ses disciples qui l'accompagnaient. Et par-delà ses disciples, il y avait une assez grande foule, c'est-à-dire des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient été touchés par à la fois sa personne, mais je pense que beaucoup de gens le suivaient parce qu'il y avait là, à travers ce qu'il exprimait, ce qu'il enseignait, probablement comme une attraction. Les gens avaient besoin finalement de cette parole parce que, cela nous est dit dans l'évangile de Matthieu, Jésus n'avait pas un langage qui était commun. Je veux dire que commun sur le plan religieux. Il y avait les scribes, il y avait là tous ces sacrificateurs, tous ceux qui parlaient dans les synagogues, dans le temple de Jérusalem, naturellement. Et puis c'était un langage codifié, vous comprenez, tout un cadre de liturgie, comme on le connaît encore aujourd'hui, parce que le monde religieux n'a pas changé. C'est toujours quelque chose avec des emphases pompeux, souvent, qui quelquefois, peut agacer les gens et être ennuyeux, parce que finalement, par-delà peut-être des belles phrases bien dites, par-delà quelque chose qui est bien réglé, bon, ça n'apporte pas grand-chose. Mais ce que Jésus disait, touchait les cœurs. Et c'est ça ce qui faisait la différence. c'est qu'on venait pour l'entendre. On le sait, il y a des récits qui nous disent que les gens se pressaient pour entendre Jésus. Alors, on en a un petit condensé à travers les rapports qui nous sont laissés à travers les quatre évangélistes que vous connaissez. Mais il nous est dit que par-delà ce que Jésus disait, par-delà ce qu'il confirmait, ce qu'il disait par les miracles, eh bien, il n'y aurait pas de livre, il n'y aurait pas suffisamment de place et d'endroit pour sur la terre pour contenir tout ce que Jésus a pu dire et faire. Alors, ce qu'il nous a laissé, c'est suffisant pour que nous puissions vraiment nous approcher de lui et croire. Alors, il y avait ça. C'était certainement une motivation. Et puis, il y avait des gens qui suivaient parce qu'il fallait suivre les autres, tout simplement. Vous savez, il y a toujours différents wagons. Hein, il y a les premières classes. Alors, ceux-là, c'est probablement des gens qui avaient beaucoup d'intérêt pour Jésus, parce qu'ils le reconnaissaient comme le Messie, ils le reconnaissaient pour la véracité de ce qu'il disait, comme venant eh bien, du ciel, parlant de la part de Dieu, et puis il y avait les autres qui suivaient, parce que bon, c'était comme ça, et puis des voyeurs aussi, vous savez ce que ça veut dire, hein, un voyeur, hein, parce qu'il faisait des miracles, et ça les intéressait de dire, eh bien moi j'ai vu, vous savez ce prophète de Galilée, il a fait ceci, il a fait cela, et ça n'allait pas plus loin, hein. C'était tout simplement pour parler. Alors, cette foule l'accompagne, et puis, à un moment donné, va surgir, on ne sait pas comment d'ailleurs, parce que, compte tenu de son état, mais toujours est-il qu'on peut deviner. Il nous est dit qu'il y a un homme qui s'appelle Bartimée. Même, on donne aussi son ascendance, père, enfin fils de Timée. Et cet homme est mendiant, aveugle. Il était assis au bord du chemin. On aurait pensé qu'avec la société d'aujourd'hui, il n'y aurait plus de mendiants, il n'y aurait plus d'aveugles, il n'y aurait peut-être plus de détresse. Et on s'aperçoit que, en ce qui concerne l'abaissement social des hommes, il y en a de plus en plus. Pourtant, nous avons quand même tout ce qu'il faut pour y répondre, hein, des institutions, le dévouement, toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Mais hier comme aujourd'hui, rien n'a changé. Et on s'aperçoit que dans nos villes et dans notre monde, en 2012, il y a des gens qui sont sur le bord de la route. Et il y a certainement des gens qui sont frappés de toutes sortes d'infirmités. Nous l'avons lu dans le psaume 146. Hein, des affamés, des opprimés, des captifs, enfin voilà. Et puis il y a des aveugles aussi. Et nous voyons que aveugle décliné sous ces deux sens, les gens qui sont frappés parce qu'ils sont privés de la vision, ils ne peuvent pas voir, donc ils sont invalidés, ils ne peuvent pas avoir une vie comme les autres. Hein. Puis moi je pense que sur le bord du chemin il y a aussi beaucoup d'aveugles moraux et des aveugles spirituels. Eh oui. Et ils s'ignorent, ils ne savent pas parce que personne ne leur a dit. Un aveugle physique, alors, lui le sait et tout le monde le sait, parce que ça se voit. Hein, quelqu'un qui tâtonne et quelqu'un qui est tout simplement, eh bien là, au bord du chemin, ça se voit. Mais les autres, pour tous les autres, et ils sont peut-être encore plus nombreux que ceux qui sont qui ont un problème visuel, alors cela, eh bien, c'est quelque chose. Et on peut quand même décemment dire qu'ils sont là sur le bord du chemin et sans savoir où ils vont. Parce que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et tant qu'on n'est pas dans l'admirable lumière ou la lumière de Dieu, celle qui nous éclaire, celle qui est capable de resplendir dans toutes les dimensions de notre vie, physiquement, moralement et spirituellement, alors pouvons-nous dire qu'il y a beaucoup de gens sur le bord du chemin qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus sur le plan moral, sur le plan peut-être là de toutes les règles sociales, des règles de la vie, ils ne savent plus où ils en sont rendus, ils sont aveugles. Mais pour Bartimée, nous y revenons, il était aveugle, et puis la seule ressource qu'il avait pour pouvoir subsister dans le monde qui était le sien, eh bien c'était tout simplement de mendier. Alors il ne savait pas, les donateurs, s'ils venaient de droite ou de gauche, puisqu'il était aveugle. Il tendait la main, c'est tout. Et comme dans ce qui souvent, eh bien là, on le voit dans les récits à votre bon cœur, messieurs, dames. Voilà. Parce que il n'y avait pas d'autres ressources, il n'y avait pas d'autre manière pour lui de subsister et de vivre. Alors, aveugle, assis au bord du chemin. Et puis, il va se passer quelque chose de tout à fait étonnant, qui va déclencher chez lui un mécanisme qui va l'amener à réaliser que ce jour-là, avec la rencontre qu'il va faire avec cet homme-là, eh bien, sa vie va basculer. Sa vie va changer. Et je crois que on aurait besoin encore d'avoir cette sensibilité qu'a eu Bartimée, de pouvoir s'attendre au merveilleux, à ce qui est étonnant à ce qui est extraordinaire, voire même ce qui est surnaturel, à chaque instant. Vous savez, le monde est blasé autour de nous. Pourtant, son aveuglement est grand, d'une façon ou d'une autre. Mais les gens sont blasés. On se demande s'ils ont besoin encore de quelque chose. On se demande s'ils s'attendent encore à quelque chose. Oui, certes, ils s'attendent à ce que les hommes les aident. Mais est-ce que les hommes s'attendent à ce que du ciel, eh bien, il y ait quelque chose qui se révèle et qui se manifeste dans la souffrance, dans notre souffrance et notre infortune. Alors, il va saisir une occasion qui lui est donnée. Et je pense que ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Peut-être, je vais aller au-delà de la cécité, à quelque niveau que ce soit, mais peut-être dans nos besoins, une attente, une espérance, quelque chose qui est au fond de notre cœur et que nous aimerions tellement voir se réaliser. Imaginez-vous, Bartimée, il avait certainement espéré plus d'une fois qu'un jour il verrait clair, il recouvrerait eh bien l'usage de ses yeux. Et cette petite chose est si simple, c'est qu'on nous a dit qu'il était assis au bord du chemin, mais il n'avait plus l'usage de ses yeux, mais ses oreilles fonctionnaient bien, parce qu'il nous est dit qu'il entendit. Alors on pourra peut-être s'apitoyer parce que nous avons perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie. Nous sommes infirmes d'une manière ou d'une autre. Mais il n'avait pas tout perdu parce que s'il n'avait plus ses yeux, il avait encore ses oreilles. Et même s'il avait perdu ses oreilles, il y aurait peut-être encore quelque chose qui aurait pu se développer en lui et qui lui aurait permis encore eh bien, de trouver le chemin, de sortir du bord du chemin pour se mettre au milieu. Et il avait encore la capacité d'entendre. Et avec ce qu'il a entendu, ce jour-là, eh bien, il a pu recevoir ce que Dieu lui destinait à travers la rencontre qu'il a faite avec Jésus-Christ. Il entendit. Si l'on peut prendre les choses en considération, et moi je trouve que c'est merveilleux, quand vous lisez l'Évangile, nous voyons que partout, Jésus en particulier, dans ses messages, les disciples, les apôtres, les prédicateurs, les missionnaires, tous ceux qui ont été envoyés, ont eu cette mission de faire entendre. C'est particulièrement ce qui nous est dit. Nous pouvons lire la Bible, mais je voudrais vous signaler que pendant près de 1500 ans, il n'était pas question, mis à part l'Ancien Testament, mais il n'était pas question de lire le Nouveau Testament. Puisqu'ils existaient, naturellement, les pères de l'Église ont traduit, etc., etc., mais ce n'était pas divulgué au peuple. Il a fallu attendre l'invention de Gutenberg pour que ça se développe, pour que ça se vulgarise, et que le monde entier, alors vous savez que ça donnait quelque chose de formidable et de terrible en même temps, ça a été la réforme, qui a été payée avec un prix du sang, pour que cette parole de Dieu se diffuse. Aujourd'hui, nous sommes vraiment des privilégiés, parce que la Bible, il y en a partout. Et il y en a partout, mais on s'aperçoit qu'il y en a quand même si peu qui la lisent. Mais le message de l'Évangile a été avant tout, pendant des siècles et des siècles, un message verbal. C'est-à-dire que on se passait la nouvelle de Jésus-Christ, du royaume de Dieu, du salut de Dieu, de bouche à oreille. Et nous voyons que là, c'est tout à fait particulier dans ce qui souligne eh bien, ce moyen et ce véhicule, nous pourrions dire, qui servait eh bien, à la parole pour être entendu. Il nous est dit qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Voilà. Entendre parler de Jésus de Nazareth. Et c'est ainsi que l'Évangile est venu jusqu'à nous et s'est développé. Après, il y a eu d'autres façons, d'autres méthodes. Et on sait aujourd'hui, avec les techniques modernes, que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais il a entendu. Et avec ce qu'il a entendu, il avait le choix. Il se bouchait les oreilles. Ou il gardait les oreilles ouvertes, mais ça ne l'intéressait pas, ça ne le concernait pas, ou alors à ce moment-là, il portait une attention particulière. Et quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, alors à ce moment-là, il s'est passé dans son cœur, eh bien probablement un déclic. Parce que s'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, c'est qu'il en savait déjà peut-être un peu plus que d'entendre que c'était Jésus de Nazareth. Parce que l'on me dise, monsieur un tel passe à Saint-Nazaire, moi si je le connais pas, je ne vais pas me déplacer. Ou je ferai rien de particulier parce que je ne le connais pas. Mais moi je pense que cet aveugle, il était certes aveugle, mais il n'était pas sourd. Et il avait probablement entendu auparavant que ce Jésus de Nazareth, ce fameux prophète qui venait là des régions de Galilée, était un homme qui faisait des miracles. un homme qui faisait des choses extraordinaires, et il a associé ce qu'il savait déjà peut-être faiblement, d'une petite dimension, et il s'est dit, mais peut-être que c'est l'opportunité pour moi. Et je crois qu'à chaque fois que nous prêchons l'Évangile, et Dieu prépare nos réunions, pour que véritablement la parole qui est donnée par les uns, par les autres, votre témoignage, eh bien, puisse trouver un écho favorable pour des gens qui sont réunis au bon moment, au bon endroit, pour entendre parler de la bonne personne, c'est-à-dire Jésus. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est pas un court-circuit qui se passe, il y a une connexion qui se fait. Et je pense que Bartimée a entendu, et il s'est souvenu probablement, parce qu'on devait en parler dans toute la Palestine de Jésus, de ce prophète, il s'est dit, bien voilà, il est près de moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi. Il y a tellement de passivité aujourd'hui dans notre monde. Les gens, je le disais tout à l'heure, sont blasés. Les nouvelles. Et on veut des nouvelles de plus en plus extraordinaires, de plus en plus transcendantes, et ceci et cela. Et pourtant, hein, des aveugles, des malheureux, des souffrants, il y en a plein autour de nous. Sans réagir au message de l'Évangile et sans réagir au nom de Jésus. Alors il s'est mis à crier. Et il a dit, c'est pour dire qu'il avait quand même une certaine base et une certaine connaissance. Il savait peut-être pas grand-chose, mais il le savait. Ça, ce qu'il savait, il le savait bien. Il s'est mis à crier, pas à prier, à crier, mais son cri était une prière. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il savait que le Messie, que le Rédempteur, celui qui avait été attendu et celui qui avait été annoncé et attendu depuis des siècles et des siècles, serait un fils du roi David. Et ça, quelques éléments, des petites choses, mais qui ont été à la base de sa foi. Et vous savez, quand il est parlé de la foi, c'est comme un grain de sénévé. C'est tout petit et puis ça grandit et ça enfle de plus en plus pour remplir tout complètement et totalement notre vie. Eh bien, lui, il savait peu de choses, mais il l'a mis en avant. Fils de David, et il a exprimé ce qu'il attendait. Il l'appelle Jésus, donc il le reconnaît comme le fils de David. S'il est le fils de David, il est le Messie, il est le Sauveur. Et ça confirme ce qu'il avait probablement entendu des miracles de Jésus auparavant. Et il se dit, mais alors à ce moment-là, s'il est près de moi, je ne le vois pas, j'entends dire qu'il est là, alors le seul recours qu'il avait après ses oreilles, c'est de crier la parole. Parce que la parole, on peut se taire ou on peut dire, on peut parler, on peut demander. Ça, c'est quelque chose. Donc il a fait marcher les deux éléments qui lui restaient, l'audition et la faculté tout simplement de parler. Et il crie et il demande, aie pitié de moi. Voilà. C'est la compassion. Vous savez, les souffrants, ce qu'ils ont besoin, avant toute autre chose, c'est pas de reproche. Ça serait malvenu d'ailleurs, ça serait incongru. Mais c'est de sentir qu'ils peuvent être, que l'on peut porter une attention sur eux et que ils ont besoin d'amour. Vous voyez, la souffrance, ça doit pouvoir, au lieu de nous endurcir ou de nous racornir en nous-mêmes dans un état de révolte ou de rejet, eh bien, de demander plutôt le contraire. Aie pitié de moi. Seigneur, je suis malheureux. Jésus, toi de Nazareth, eh bien, j'ai besoin de ta grâce. Alors, il a demandé ce qu'il avait demandé. Dans un premier temps, il n'a pas dit « ouvre mes yeux », mais il a demandé de l'amour et de la compassion. Et ça, quand nous demandons à Dieu qu'il ait compassion et qu'il se manifeste dans son amour pour nos misères touchées, eh bien, le Seigneur entend. Seigneur, je suis malheureux, je suis malheureuse. Seigneur, souviens-toi de moi et pose un regard favorable sur ma détresse, aie pitié de moi, ça peut être dit de cette manière. Mais voilà que cet homme, il fait trop de bruit. Ouais. Il a entendu, mais il fait du bruit. Parce qu'il crie, et ça peut déranger. Ça peut déranger parce que, quelque part, pourtant, dans une rue, sortant de Jéricho, à la porte de Jéricho, il devait y avoir du bruit, comme cela on le voit dans les villes du Moyen-Orient. Vous savez, c'est beaucoup plus agité que chez nous, hein. Nous, c'est calme, hein. Regardez, à Saint-Nazaire, cet après-midi, tranquille. Mais dans ces villes, ça bouge en permanence, nuit et jour. Alors, je ne sais pas, quelle est l'attitude de ces gens qui sont gênés parce que quelqu'un crie, et qu'il crie pas pour n'importe quoi, mais qu'il crie parce qu'il a besoin, en quelque sorte. Et il nous est simplement rappelé que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il demande de la compassion à Jésus, et les hommes, eux, refusent la compassion et un regard compatissant, un regard d'amour à son égard. Toi, l'aveugle, reste de côté, ça ne te concerne pas. Jésus est venu pour nous, mais pas pour toi. Ça pourrait peut-être signifier, eh bien, à travers cette réponse. Donc, ils le reprenaient, ils ont essayé de lui dire, mais écoute, reste tranquille, tais-toi. Peut-être qu'il va parler, alors donc, s'il parle, tu es en train de nous troubler, et ceci et cela. On le repousse, on le met derrière. Puis comme le pauvre homme, il ne voit rien, qu'est-ce que vous voulez, on peut faire n'importe quoi avec un aveugle. Hein, on peut le repousser, on peut le faire tomber, on peut s'en débarrasser aisément. Et cela pour le faire taire. Mais voyez-vous, s'il y a quelque chose qui dénote que cet homme a la foi, avec le peu qu'il a dans son cœur, mais il a la foi, eh bien plus on essayait de le museler, de l'amener à finalement ne plus rien dire, eh bien il nous est simplement rappelé que lui, il criait encore plus fort. Et ça, la foi se caractérise, entre autres, par la persévérance. Eh oui, il y a quelque chose de formidable, et ça c'est vrai pour lui, c'est vrai aussi pour nous, on ne lâche pas prise facilement. Si nous sommes convaincus, nous sommes convaincus. Si nous avons des convictions ou une assurance dans notre cœur, ne nous laissons pas dissuader. Alors, ça sera peut-être pas la foule qui va nous dissuader. Mais vous savez, toutes ces voix qui crient en foule dans notre cœur et dans nos pensées en disant, mais écoute, tout ça, la Bible, l'Évangile, Jésus, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu t'évertues à lire la Bible pour trouver peut-être quelque chose là qui pourrait te soulager? Vous savez, toutes ces voix, elles crient en foule et elles essaient de nous reprendre. Elles essaient de nous faire taire parce que nous crions vers Dieu et ces foules, ces voix, eh bien, elles sont à l'intérieur. Oh, les autres s'en aperçoivent pas, mais nous on s'en aperçoit parce que ça crée une confusion. Ça amène le doute. Voire même quand elles gagnent ces voix-là, eh bien, elles nous amènent à l'incrédulité et à baisser les bras. Et voilà le pauvre aveugle qui se rassied, hein, et qui dit, ben voilà, c'est plus la peine, il est passé, c'est fini. Mais lui, il crie plus fort. Et même s'il est passé, il sait pas où il est, Jésus, parce qu'il ne le voit pas, on a bien compris la situation. Mais, en tous les cas, il se dit, qu'il soit à droite, qu'il soit à gauche, moi je crie, et on ne me fera pas taire. Et vous savez, si vous attendez quelque chose de la part du Seigneur, ne baissez pas les bras. Vous voulez voir le train passer? Vous voulez voir la grâce de Dieu filer comme cela? Il faut persévérer. Il y a des paraboles dans la Bible. Jésus nous les donne, comme cet ami qui va frapper chez son voisin pour lui demander à minuit, c'est pas une heure pour aller débarrasser, pour aller visiter son voisin, pour lui demander trois pains. Moi, je crois que la véritable foi, elle se fonde, elle s'incruste, nous pourrions dire, elle devient plus forte, elle se fortifie dans la persévérance. Et souvent, nous nous heurtons à ceux qui veulent nous faire taire, intérieurement ou extérieurement, et nous nous heurtons quelquefois aussi au silence de Dieu. On se dit, mais s'il ne répond pas, c'est qu'il ne veut pas. Non, s'il ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas. Ça veut dire que nous avons besoin de faire un pas de plus pour manifester encore davantage notre foi, notre insistance et notre désir de recevoir envers et contre tout. Et personne ne nous arrêtera. Dans nos églises, nous avons vu des belles guérisons, des belles délivrances, des belles choses en général. Et moi, j'ai toujours constaté que tous ceux qui ont fait ce genre d'expérience, ce sont des gens qui ne lâchaient pas prise. Vous savez, dans la vie, hein, quand on veut quelque chose, il faut se cramponner. Dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, hein, dans la vie scolaire aussi, hein, on se dit, mais j'y arriverai avec la grâce de Dieu. Pour nous, on dit avec la grâce de Dieu, bon. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui se disent, à la force du poignet, je ne céderai pas, j'irai jusqu'au bout. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'ils y arrivent quand même, parce qu'ils sont déterminés. Alors, on ne baisse pas les bras. Et Bartimée, lui, en tous les cas, il voit l'opposition se lever, mais il crie encore plus fort. Il met la note au-dessus, il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Vous savez, il n'a pas changé dans sa prière. Il reste toujours sur sa prière. Et il emploie les mêmes mots, comme précédemment. Et là, il y a une petite phrase qui est formidable. Enfin, moi, je la trouve formidable. Il nous est dit, en deux mots, « Jésus s'arrêta. » Ah ! Arrêtez Jésus qui marche sur le chemin. Qui passe devant Bartimée, qui ne semble pas vouloir faire quelque chose, mais néanmoins, eh bien, à ce moment-là, parce qu'il a insisté, il nous est dit que le Seigneur s'est arrêté à ce moment-là. Il a marqué le pas. Et si le Seigneur s'arrêtait auprès de nous, et il s'arrête souvent auprès de nous, nous crions à lui, il s'arrête, et on le laisse passer. C'est dommage, hein? Moi, je suis sûr que, de toute façon, le Seigneur se décourage pas avec nous. Hein. Il a entendu nos prières, mais quelquefois, nous ne sommes pas finalement prêts à recevoir. Et il passera, il repassera, il reviendra, Et c'est là où justement, eh bien, notre foi doit grandir et que nous en arrivions à un niveau qui nous permette de recevoir, eh bien, ce que nous lui demandons et ce qu'il veut avant tout nous donner. Jésus s'arrêta. Le Seigneur s'arrête. Et à travers ce que nous sommes cet après-midi, peut-être que dans votre cœur, vous avez une petite idée de ce que vous pouvez lui demander, de ce que vous lui avez demandé. Moi, je voudrais vous dire que le Seigneur va s'arrêter. Alors saisissez l'occasion. Et il s'arrête et Jésus va parler à ce moment-là. Oui. Donc il va lui répondre. Parce que quand on prie, il y a toujours une réponse. Et il répond. Et il va s'adresser non pas à l'aveugle, mais il va s'adresser à tous les autres, à toutes ces voix qui essaient de faire taire Bartimée. Et il va leur dire, et là il y a un côté un peu humoristique de la manière dont Jésus va procéder, Jésus s'arrêta et il dit, entendez par là, il dit à tout le monde, eh bien vous allez l'appeler. Vous voulez le faire taire, eh bien moi je l'appelle et c'est vous qui allez le mandater, vous qui allez le chercher pour qu'il entende, qu'il reçoive ce que il me demande, appelez-le. Et si le Seigneur nous appelait cet après-midi? Le Seigneur s'est arrêté. Et puis, en tous les cas, moi je suis chargé de vous dire que le Seigneur vous appelle. Ça c'est l'essentiel du message de tous les prédicateurs. Hein. Il vous appelle. Il vous appelle à quoi? Au fond de chacun d'entre nous, nous avons certainement une raison de demander quelque chose à Dieu, que nous voulons voir, que nous voulons réaliser. Ça peut être le renouvellement de nos forces parce que nous sommes très fatigués. Ça peut être une infirmité récurrente, quelque chose qui tient de la maladie chronique où nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Ça peut être l'attente d'un travail, d'une situation ou d'autre chose. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce que dans la vie des hommes, il y a mille et un problèmes et il y a aussi des réponses à tous ces problèmes et à toutes ces questions. Alors, si le Seigneur nous appelait, qu'est-ce que nous allons faire à ce moment-là? Vous avez remarqué, il ne voit toujours pas, hein, Bartimée. Mais il est quand même auditeur de ce qu'il entend des autres, de cette foule qui le repousse, et puis de Jésus, qui dit, bien écoutez, puisque vous voulez le faire taire, bien moi je veux vous dire quelque chose, c'est que c'est vous qui allez l'appeler. Vous allez l'appeler pour qu'il vienne à moi. Vous savez qu'il devait faire une mine déconfite, hein, il devait se... les autres en disant, bon, ça n'a pas marché ce coup-ci. Hein. Vous savez qu'avec le diable, ça marche souvent, hein. De nous faire taire et de nous couper un petit peu les énergies et ce que nous attendons. Alors, c'est comique, mais ils appelèrent l'aveugle après avoir voulu le chasser. Ils l'ont appelé et en lui disant, avec un air de commisération, ce sont vraiment des hypocrites. Prends courage. Oui, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Ouais, mais ça, c'est la versatilité humaine. Vous savez, les hommes se retournent comme ils veulent, hein. Après avoir été opposés à Bartimée, ils vont essayer de l'encourager. Alors vous savez, si nous voulons véritablement avancer, ne nous laissons pas décourager par les hommes, et quand ils vous encouragent, faites davantage confiance à Dieu qu'à eux. Parce que l'homme, dans l'état où nous le trouvons contre Bartimée, son inspiration n'est pas toujours très bonne. En tous les cas, on s'aperçoit que c'est pas une inspiration qui vient du Seigneur. Bien que le Seigneur leur ait dit, eh bien, vous allez l'appeler. Alors, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle jeta son manteau, nous est-il dit, et il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Cette image de la spontanéité, de cette vivacité, de cette énergie qu'il le trouve en un instant pour aller chercher. Oui, les grâces de Dieu sont beaucoup plus prêtes que nous le pensons, mais il faut quand même tendre la main, vous comprenez? Il y a cette belle image que j'aime bien utiliser, parce que les trésors sont au ciel. Les trésors de Dieu sont au ciel. Mais nos bras sont trop courts. Mais néanmoins, il y a une chose qui peut nous permettre d'atteindre le lieu de Dieu, le sanctuaire de Dieu, la grâce de Dieu, la délivrance dont nous avons besoin, la guérison dans ce sens. C'est ce que je pourrais appeler le bras ou la main de la foi. Alors là, je voudrais vous dire, c'est vraiment télescopique. Ça traverse finalement eh bien l'espace, parce qu'il n'y a pas de distance qui compte entre moi qui crie, qui prie, et le Seigneur qui veut me donner. La main de la foi, Seigneur, je prends, je reçois, parce que c'est de toi que viennent ces choses. Mais le pauvre homme, toujours aveugle, au moment où je suis en train de vous le dire, il jette son manteau. Et il a raison de jeter son manteau parce qu'il se dépouille de quelque chose. Il est en train de se défaire de quelque chose. Et quand nous nous approchons de Dieu, nous avons besoin toujours de nous défaire de quelque chose. Alors on peut toujours suggérer pas mal d'embarras autour de notre vie pour nous empêcher, finalement, d'atteindre l'exaucement. Mais dans ce manteau, je sais qu'il y a des prédicateurs qui ont inventé toutes sortes de choses, hein, mais qui peut être tout à fait plausibles, hein, je n'en disconviens pas. Mais toujours est-il que, vous savez, il y a une chose qu'il nous faut absolument jeter. Si c'est ce manteau, si c'est cette sorte de manteau, c'est vraiment le doute et l'incrédulité. Nous en avons rempli plein nos poches. Vous savez, un manteau, comme pouvait l'avoir, comme pouvait être revêtu un mendiant à l'époque, parce que c'était sa seule maison, un manteau, son grand chapeau de feutre, son manteau avec des poches. Et vous savez, si nous participons à une course de vitesse, en principe, on se met un survêtement très près du corps et on ne court pas avec un manteau, qui plus est s'il est plein de choses dans les poches. On ne va pas courir longtemps, hein. Eh bien, c'est ça, c'est une image. On pourrait dire autre chose, mais c'est une image. Il a jeté son manteau. Et chacun d'entre nous, peut-être, nous sommes prêts à recevoir. Le Seigneur passe, il s'arrête, je l'entends, il me parle. Plus encore, il m'appelle. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Pour aller plus vite, pour me précipiter, pour recevoir, et qui monte et qui fait la preuve de la détermination de ma foi, de la véracité de ma foi, il va falloir que je me débarrasse de tout ce qui m'encombre. Et ces grands manteaux à l'oriental, comme on en trouve encore aujourd'hui, hein, les djellabas, mais certainement beaucoup plus épaisses, eh bien, vous prenez les pieds dedans et puis vous tombez, tout simplement. Et là, c'est un risque. Et nous, ça peut être ça, notre manteau d'incapacité, notre manteau qui nous invalide, ce qui nous empêche, eh bien, d'aller chercher la guérison et la délivrance. Et on se prend les pieds dans pas mal de choses. Et il y en a un. Vous savez, on a parlé de cette voie contraire. Celui qui vient et celui qui essaie de nous convaincre qu'on n'obtiendra rien, que le Seigneur nous donnera rien du tout, il voudrait bien nous faire prendre le pied dans ce manteau-là. Le doute, l'incrédulité. Alors, son manteau, il l'a jeté derrière lui et il s'est levé d'un bond, c'était plus facile, et il est venu vers Jésus. Il est venu vers Jésus. Jésus s'est arrêté et cet homme est allé vers Jésus parce que, toujours aveugle, il avait besoin de sa présence. Il ne le voyait pas, mais il sentait à l'intérieur de lui, parce que l'œuvre de la foi, ça nous donne des convictions à l'intérieur. Je dirais que la foi, c'est pas toujours la sensation le sentiment. Mais néanmoins, quand la foi est arrivée à son niveau voulu pour recevoir, pour être exaucée, il y a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dit « c'est là ». Combien de fois nous avons fait de belles expériences à un moment ou à un autre de notre vie, nous étions convaincus que nous allions recevoir et nous avons reçu. C'est vrai ça. C'est vrai. Quelquefois le Seigneur nous a attendus. Mais quelle belle expérience et quelle expérience également pour eux. Alors il est venu vers Jésus. Et quand je suis en face de Jésus comme Bartimée est en face de lui, alors à ce moment-là, j'entends la parole qui va me faire du bien. La parole qui va me conduire à prendre, à acquérir cette main, ce doigt de Dieu qui vient vers moi et cette parole qui va me permettre de confirmer ce que je crois. Jésus prenant la parole et donnant, adressant la parole à Bartimée, il n'y a pas d'autre doute, hein, il n'y a pas de doute à avoir, lui dit à lui, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jusqu'au dernier moment, le Seigneur nous demandera si nous voulons ou nous voulons plus. Si nous sommes encore d'accord ou non, si nous sommes déterminés pour encore nous engager dans cette belle aventure, jusqu'au dernier moment. Et vous savez que c'est souvent au dernier moment qu'il y a les plus grands combats, les plus grandes disputes, quand nous sommes près de la frontière. La frontière qui est encore, qui nous enserre dans les ténèbres, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure, de la maladie, de l'infirmité, de tous ces doutes qui viennent et qui sont mêlés à notre condition d'homme, pour arriver à son admirable lumière, là où nous allons voir la clarté de Dieu. Nous allons voir le soleil de justice se lever, parce qu'il nous est dit que dans ce soleil de justice, c'est Malachie qui le dit, que c'est dans ses rayons que se trouve la guérison. Que veux-tu que je te fasse? Alors, vous avez remarqué avec moi, on a suivi par étapes l'histoire de Bartimée. Et c'est souvent au dernier moment, qu'est-ce que nous allons répondre? Quelquefois, notre pied est prêt à fléchir. Nous sommes prêts quelquefois à nous décourager. Et je vous dis, plus nous sommes prêts d'une victoire, plus d'une délivrance, plus l'adversaire nous attaque. Plus il essaie de nous mettre finalement en morceaux et de nous mettre hors concours. « Que veux-tu que je te fasse ?» Et cet homme de lui répondre, Bartimée de lui répondre avec ce terme, « Maître, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » C'est d'une simplicité déconcertante et qui nous étonne de la question que Jésus lui pose. Jésus est en face d'un aveugle, Jésus voit l'aveugle, l'aveugle ne voit pas Jésus, et Jésus pourtant lui pose la question, « Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?»« Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te demande d'autre ?» Je suis infirme, j'ai un problème, avec mes yeux, je ne vois rien du monde. Mais qu'est-ce que tu me demandes là? Mais en tous les cas, cette question, elle est pertinente et elle est incisive parce que cet homme va manifester d'une manière très claire, en 3-4 mots, sa détermination, que je recouvre la vue, que je sois guéri. Eh bien, demandez-le comme ça au Seigneur, vous allez voir. On se perd dans toutes sortes de considérations, dans toutes sortes de choses, dans nos prières, en pensant que plus on en met dedans, plus on ajoute, plus on multiplie les mots, plus nous serons exaucés. Mais il faut aller droit au but. Priez simplement. Priez avec foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Simplement, redevenez comme des petits enfants. Non pas infantiles, mais avec une simplicité de cœur, une humilité, une douceur. Alors à ce moment-là, le Seigneur va nous ouvrir les yeux, comme il a ouvert les yeux à Bartimée, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Vous avez remarqué une petite nuance? Jésus ne lui dit pas « ta foi t'a guéri », mais « ta foi t'a sauvé ». Et c'est là où nous sommes sur les deux niveaux. Le niveau de la cécité physique dont il va être délivré et le niveau de la cécité morale et spirituelle grâce à sa foi. Et grâce à la foi qui va le conduire au salut, il va retrouver les yeux, il va retrouver la vision, tout simplement. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait, hein ? Ouais. Quand il est parlé de la sagesse et de la profondeur, de la connaissance et de l'intelligence de Dieu, eh bien nous en avons un exemple. Et pourtant cet exemple est des plus simples, hein. Ta foi t'a sauvé, c'est grâce à ta foi, c'est grâce à ta persévérance. Toi l'aveugle, qui n'a plus que l'audition et qui n'a plus que la parole. Eh bien, ce qu'il te manque, tu vas l'avoir. Le troisième élément, c'est-à-dire la capacité de voir le monde, de voir autour de toi, eh bien, c'est grâce à ta foi, parce que la foi, c'est la seule chose qui sauve. Oui. Vous savez, il y a un proverbe populaire qui nous dit qu'il n'y a que la foi qui sauve, hein. Et pourtant, ce sont des gens qui se disent bons chrétiens, qui se disent bons croyants, qui disent ça, il n'y a que la foi qui sauve et qui croient aux bonnes œuvres. Ça, c'est quand même assez particulier, hein. Toujours cette réaction de l'effort, comme si le Seigneur, finalement, avait besoin qu'on lui donne un coup de main pour obtenir ceci et cela. Dans la tranquillité, dans la paix, dans le repos. Alors nous avons le salut et nous avons, eh bien, la guérison. Et aussitôt, parce que c'est au prix de sa foi, c'est grâce à sa foi, la foi en Jésus, aussitôt, il recouvra la vue. Et imaginez-vous quel spectacle pour un homme qui était aveugle, peut-être de naissance, ou qui était aveugle depuis, peut-être accidentellement, je ne sais pas. Mais toujours est-il, imaginez-vous, quand, après avoir été pendant des années dans l'obscurité, le voile se lève et que vous voyez finalement ce qu'on n'a jamais vu auparavant. Je m'imagine que tous ces gens qui étaient autour de lui, les familiers qui se tenaient encore dans sa présence, qui l'aidaient, qui lui portaient peut-être quelques secours, Il entendait bien la voix de ces gens, il les reconnaissait, peut-être plus que nous, à leur timbre de voix. Il pouvait dire, eh bien, toi tu es Jean, toi tu es Pierre, tu es ceci, tu es cela. Mais il n'avait jamais vu leur visage. Décrivez ce que c'est qu'un arbre ou une fleur à un aveugle, enfin un aveugle-né. C'est pas possible. Dites-lui ce que c'est que les ténèbres et la lumière. Il ne comprend pas. Il ne pourra pas comprendre, parce que c'est la nuit en permanence. On peut lui dire, eh bien, il fait jour aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire, il fait jour? Pour lui, c'est la nuit. Mais là, à un moment donné, le voile va se déchirer et il va voir. Il va voir des hommes, il va voir des enfants, il va voir des visages, il va voir les couleurs, il va voir toutes sortes de choses. Mais imaginez-vous ce bouleversement et ce renversement dans son existence. C'était certainement le plus beau jour de sa vie. extraordinaire, merveilleux. Seigneur, moi je le demande pour nous, je le demande pour moi. Seigneur, dévoile-nous ce que nous ne connaissons pas encore de tes merveilles et de ta splendeur, Seigneur. Fais-moi rentrer dans tes parvis, dans tes sanctuaires. Vous savez qu'on le verra, ça va être quelque chose. Moi, je ne saurais pas vous trouver les mots pour vous dire ce que c'est que le ciel. Mais quelquefois, eh bien, ça arrive que le Seigneur, c'est vrai que c'est assez rare, mais il nous lève un petit coin du voile du ciel, et là, nous avons quelque chose qui nous encourage, surtout que lorsque nous sommes dans la détresse et dans le désarroi. Moi, j'y crois que Dieu encourage, que Dieu, eh bien, nous montre certaines choses. Vous savez qu'il peut le faire pour vous cet après-midi, ou ce soir, ou demain matin. Faut y croire, faut croire au miracle de Dieu. Il ne faut pas être blasé. Il faut croire que tout est possible avec le Seigneur encore. Ouais. Quelquefois, ce sont des interventions inattendues de Dieu. Mais faut croire que tout est possible. Est-ce que nous croyons encore au miracle? Est-ce que nous pouvons croire encore au surnaturel de Dieu? Nous ne sommes pas tout seuls, contrairement à ce que nous pourrions penser. Puis je termine. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. La grande différence qui est faite, c'est que quand nous avons commencé notre message, il nous est dit qu'il était sur le bord du chemin, et à la fin, il nous est dit qu'il était dans le chemin. Ça, c'est formidable. Ouais. Tous les aveugles, qu'ils sont physiquement, qu'ils le soient physiquement, ou les aveugles, qu'ils le soient moralement et spirituellement, eh bien, le Seigneur veut nous faire sortir de l'ornière, du fossé, de ses bas-côtés, vous comprenez ? Nous ne connaissons rien de la vie, nous ne connaissons rien de Dieu, et nous sommes dans la misère et dans le malheur, pour nous amener à marcher au milieu du chemin. Vous savez que Jésus le dira d'une manière formidable, et il le fait entendre encore. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il dira, je suis la lumière, je suis le pain de vie, je suis le bon berger, et puis, il est tout. Le Seigneur, c'est la plénitude, et nous en avons besoin. Alors cet homme suivit Jésus dans le chemin. Pendant des années, il avait du mal à suivre puisqu'il ne voyait pas. Et c'est difficile de suivre quand on ne voit pas. Il y a quelqu'un qui vous tient par la main, quelqu'un qui va vous servir de guide, mais c'est pas une vie normale, c'est pas une vie dépendante. On est toujours esclave ou dépendant de quelqu'un. Maintenant, il va devenir un homme libre. Il va devenir un homme qui marche dans la lumière. Et vous avez remarqué avec moi, le mot est important. Il suivit Jésus. Quand on suit, c'est que Jésus est devant nous. Quand on suit quelqu'un, c'est que la personne est devant nous. Eh bien, ça, c'est quelque chose. D'avoir compris à un moment donné, quand nos yeux s'ouvrent, que Jésus doit être le premier et pas le dernier. Et c'est lui que nous suivons. Personne d'autre. Alors, il l'a suivi dans le chemin de la vie. Le chemin d'une vie nouvelle. Le chemin où il va pouvoir devenir un homme à part entière et être comme tous les autres hommes qui ont la capacité de voir. Mais la différence peut-être de ceux qui n'ont pas fait cette expérience, c'est qu'il a vu que Jésus, non seulement est celui qui l'a guéri, mais qu'il est aussi son sauveur, qu'il est sa lumière, qu'il est la lampe à ses pieds et la lumière sur son sentier. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Pour chacun d'entre nous, que Dieu nous bénisse. C'est un beau message, me semble-t-il. Il est tout simple, mais c'est un message qui fortifie notre foi. Et je vous demanderai tout simplement de tendre la main de la foi et de saisir ce que Dieu vous dit. Et moi, je crois que cet après-midi, quels que soient nos problèmes aux uns et aux autres, le Seigneur nous a parlé et le Seigneur veut nous parler et nous faire du bien. Ne repartez pas sans avoir reçu ce que le Seigneur veut vous donner. Alors, on va prier maintenant, simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux pour ceux, Seigneur, qui crient à toi pour que tu les éclaires, pour que tu leur ouvres les yeux. Et Seigneur, c'est ce que tu as fait pour des millions d'hommes depuis des siècles et des siècles. Tu as été pour eux, Seigneur, et tu as été pour nous, tu es pour nous aujourd'hui. En effet, eh bien, celui qui nous a fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Oui, Seigneur, c'est pas le fait de voir uniquement la lumière de ce monde, parce que tu veux nous montrer aussi que derrière, eh bien, dans cette lumière du monde, dans cette lumière des hommes, il y a des ombres. Et cette lumière, Seigneur, eh bien là, sera toujours accompagnée d'ombres. Mais il y a une autre lumière, où l'ombre n'existera pas, où elle n'existera plus, et nous verrons, Seigneur, complètement et totalement. Seigneur, ce que notre intelligence ou notre compréhension ne peut accéder maintenant, mais Seigneur, nous pouvons dire que ce que tu as préparé, cela sera merveilleux. Donne-nous de croire au merveilleux. Donne-nous de croire au miracle. Donne-nous, Seigneur, de rester sensibles encore. Et délivre-nous, guéris-nous plutôt de nos insensibilités, de nos doutes, de notre incrédulité. Délivre-nous, Seigneur, pour que nous puissions vraiment rester, oui, sensibles à ce que Dieu encore aujourd'hui est capable de faire dans nos vies, dans nos existences, tant sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Tu bénis mes amis, tu bénis mes frères et mes sœurs. Fais-leur du bien. Oui, Seigneur, tu parles souvent avec des paroles simples, des paroles directes, des paroles qui viennent, en effet, Seigneur, toucher profondément nos cœurs, parce que comme pour Bartimée, ce jour-là, ce matin-là, assis au bord du chemin à Jéricho, il ne s'attendait pas à ce que ce soit le plus grand jour de sa vie, et aujourd'hui, ça peut être aussi le plus grand jour de notre vie, si vraiment nous nous approchons de toi, puisque tu nous appelles. Merci, Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.